she has gone to find another. She no longer cares for me.
Woo!
Bury me beneath the willow, beneath the wilting willow tree. When she comes, she'll find me sleeping. Then perhaps Woo! She'll think of me.
Elle disait que la vie est là, en couleur, en couleur, si ténue que je n'entends pas battre son cœur, battre son cœur. La musique est profonde, autant que la douleur. Tu comptes les...
La musique.
Caravanana maximum.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Et investir pour s'enrichir. Papa m'a filé sa botte. On
bossent comme des dingues. L'argent ne tombe pas du ciel, faut mériter pour ramasser. On va partir en Chine, la France c'est compliqué. Toujours à grappiller pour une post-clope ou un café.
Faudrait vendre la France à des multinationales. Fini l'argent public, les charges patronales. On veut des ouvriers qui arrêtent de gueuler. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de glander. Ils ont choisi d'être pauvres, c'est pas notre problème. Nous on entreprend, on est intelligent. On a tout cet argent depuis qu'on est enfant. Grâce à l'héritage de papa et maman. Faudrait enfermer les pauvres, qu'ils arrêtent de nous emmerder. Ça fait 30 ans qu'on paye l'impôt pour payer leur scolarité. Tous ces connards d'étudiants, pour la plupart sont des boursiers. Ils passent leur vie à se droguer et à nous insulter. Tous sont sauvagés. Ils sont tous ensauvagés. Ils sont tous ensauvagés.
Bonjour, vous écoutez Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. On vient d'écouter le morceau Le Sang de Papa par les Bretons Gwendoline. Bretons, c'est-à-dire, je ne sais pas s'ils sont de Brest ou de Rennes. En tout cas d'une des deux villes. Donc c'était extrait de leur nouvel album C'est à moi ça, qui est sorti sur le label Born Bad. Aujourd'hui l'émission sera consacrée au webzine culturel Culture au Point, qui est donc le partenaire de nos ébats culturels depuis 2007. On a fait un entretien chez moi avec sept de ses rédacteurs. À la fin de l'émission, nous entendrons un entretien avec Pierre-Julien Marest, qui est l'éditeur de cinéma Marest, autour de la sortie récente de 5 livres sur Busby Berkeley, Tom Cruise, George Cukor, Paul Schrader et William Friedkin. On va commencer par le témoignage de Bruno Pissorowicz, qui est le cofondateur du site et qui s'est enregistré de son côté. Et ses propos seront complétés par Olivier Rossignol, qui est le cofondateur et rédacteur en chef du webzine Culture au Point.
L'idée initiale, je pense qu'elle me revient, ça a été, elle est née de, à la fois de discussions avec des amis très proches qui ont participé au premier pas de Culture au Point, Cyril Cossardo, Stéphane Poulard notamment, Olivier Rossignol également, Alexis Huneau, de discuter forcément pour la plupart de nos échanges, qu'ils soient oraux lorsqu'on se voyait ou écrit, sur le cinéma et la musique notamment, mais aussi la littérature, aussi les arts du spectacle, et tout ce qui concernait, on va dire, l'art en général, qui nous nourrit et qui nous unit. Voilà, discussion un peu, on va dire, éclairée sur telle ou telle question. Et puis la lecture également, je pense notamment à Stéphane Poulard et à Olivier Rossignol de leur blog spécifique. On était donc milieu des années 2000, donc vraiment là, le développement des blogs personnels, avec donc une expression dénuée de, on va dire, de limites sur la forme et le fond. Forcément, on était vraiment sur des articles souvent très longs, très érudits, très passionnés et passionnants sur le plus souvent sur telle ou telle question. Et l'idée m'est venue, en fait, d'agréger vraiment comme un agrégateur, comme un portail agrégateur de blogs, comme un blog de blogs. C'était un peu l'idée qui m'est venue, disons, voilà. Ça serait bien de mettre en avant quand même ces blogs qui sont personnels, donc qui sont un peu cachés et noyés dans la masse de blogs, alors qu'ils sont, ils sont passionnants et ils intéresseraient beaucoup de monde. L'idée était vraiment de mettre en avant à la fois nos propres écrits, je pense à moi et à Cyril notamment, qui n'avions pas de blog, et puis aussi ceux des copains, qui était très bien, et donc de les mettre un peu en vitrine, tout simplement, avec donc cette idée de bloc de blog. Évidemment pas de, on va dire, prendre tout le contenu du site, des sites personnels pour le mettre sur un autre site commun, mais en tout cas de mettre des articles en valeur. Là, on parle plutôt de rédacteurs qui sont venus ensuite. L'idée, c'était vraiment de les solliciter parce qu'on était très intéressés par ce qu'ils écrivaient, pour leur proposer de mettre en ligne, alors en général c'était une fois par mois, une fois tous les 15 jours, un article de leur blog, de leur choix évidemment, ou sous proposition de notre part, avec évidemment un renvoi vers le blog en question en fin d'article. Cela va de soi. Le concept si concept il y avait derrière Culture au Point, en tous les cas, ce qui nous a réunis et qui continue de le faire, c'était vraiment ce refus des chapelles et ce refus des vaches sacrées. Et l'idée de mettre en avant, de me valoriser, voilà, aussi bien un film du cinéma bis qu'un grand film d'un grand artiste institutionnalisé, pareillement, sans encore une fois préjuger de sa qualité ou de son absence de qualité, parce que c'est tel ou tel magazine ou telle histoire officielle a retenu ou n'a pas retenu ce nom ou ce genre. Pareillement, on n'était pas non plus obligé de parler de tel ou tel film ou de tel ou tel disque parce que c'était l'actualité. On voulait sortir de ça, laisser libre cours à notre passion, notre énergie, un peu notre dynamisme, notre énergie positive pour mettre en avant nos coups de cœur, les films, les livres, les disques qui nous plaisaient, qu'ils soient sortis quelques jours auparavant ou quelques années auparavant. Et en rajoutant un peu à ce choix qui nous réunissait tous personnel, une dynamique évidemment collective.
Bah ça a germé assez rapidement, on a commencé à faire des petites réunions, on a réfléchi déjà, on a fait pas mal de réunions autour du titre, hein. On réfléchissait pas mal au nom du webzine, pour aboutir justement à ce nom Culture au Point, qui était à la fois un peu référence pop par rapport au côté... côté dessin animé, Culture au Point de Goldorak, et puis Culture au Point, la culture, le point levé, quoi. C'était d'ailleurs, il y a encore des gens qui continuent des attachés de presse qui continuent à m'écrire en se plantant dans le nom et en marquant Culture au Point. Ils repèrent pas le jeu de mots. Et mais voilà, c'est parti de là. Et puis, je crois que ça a abouti un peu en 2007, je crois, à la. À la mise en place du site, à la mise en ligne, dans sa première mouture.
On vient d'entendre Olivier Rossignol, le rédacteur en chef du webzine Culture au Point. On va continuer l'entretien, on entendra 5 rédacteurs et actrices cinéma. Olivier Rossignol, Emmanuel Legagne, Bénédicte Pro, Éléonore Vigier et Michael Delaveau. On entendra également Alban Orsini pour la critique théâtre et Jean-Nicolas Chausseur pour la littérature. Vous n'avez pas forcément tous une formation littéraire pour écrire des critiques.
C'est pas parce qu'on n'a pas de formation qu'on n'a pas des exigences. C'est-à-dire que moi, par rapport aux textes que je reçois, il y a des textes qui sont déjà bien écrits, des textes où je sais qu'il n'y a vraiment rien à en tirer, parce qu'au niveau de l'écriture, c'est vraiment de l'écriture parlée. Il y a une espèce de confusion maintenant, parce que tout le monde publie, en fait, hein, aussi. Donc il y a une espèce de confusion où il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un post Facebook, c'est pareil qu'une critique, quoi. Donc moi, je suis quand même vraiment exigeant en matière d'écriture. Il y a des trucs moyennement écrits, ça me va pas, quoi. Enfin voilà, ça me paraît essentiel.
Vous êtes tous bénévoles.
On est tous bénévoles, oui.
Et certains d'entre vous aimeraient gagner leur vie en tant que critique ou...
Alors moi je le fais. Enfin non, en fait on gagne très mal sa vie. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes de format, des contraintes de format et puis de public à qui on s'adresse dans des médias classiques. Qu'on n'a pas chez Culture au Point, où on est partenaire avec la personne qui nous lit. C'est ça aussi, le côté partenaire, on s'adresse à eux, à vos ébats culturels. Et c'est aussi parce qu'on est tous obsédés, évidemment, qu'on a choisi ce sous-titre. Mais voilà, je pense que effectivement il y a des lectures hyper sérieuses et des analyses hyper sérieuses des œuvres, mais quand même du point de vue d'un passionné qui a envie de le communiquer aux gens. Et c'est pour ça que c'est notre premier partenaire, c'est notre lectorat.
La liberté de ton qu'on peut avoir est super importante, parce que le fait d'être bénévole, je te rejoins là-dessus, Bénédicte, le fait d'être, de pas être rémunéré, de pas être dans un carcan éditorial, ça nous permet d'être totalement libre. Si on a une colère en nous plutôt sur le théâtre, sur le spectacle, si j'ai envie de dire que j'ai détesté ce spectacle, il y avait un parti pris qui était pas le bon, je peux le dire. Je suis pas certain qu'on puisse avoir cette liberté aussi forte, dans un média sur lequel on pourrait être rémunéré, où tout d'un coup, ça crée peut-être une relation qui est différenciante. Le fait d'être bénévole, de pas avoir d'enjeu derrière, on peut dire ce qu'on veut et on peut s'enflammer dans tous les sens du terme sur une œuvre.
Même si c'est quand même un positionnement ambivalent, dans le sens où aussi à l'inverse, avec l'évolution notamment je le vois, de la critique par exemple sur la partie littérature ou autre, vers les bookstagrammeuses, etc., qui sont plus des représentantes et autres, il y a quand même malgré tout parfois un biais de punitif de la part de certains des des attachés de presse ou autres, selon. Donc c'est toujours quand même un jeu, c'est une liberté, mais une liberté quand même contrôlée. C'est-à-dire c'est pas une liberté comme il peut y avoir soit des partenariats, soit des échanges, soit des envois de services presse, soit d'autres choses. C'est quand même quelque chose où il faut maîtriser le positionnement du site. C'est pas une liberté totale qu'on obtiendrait si on avait une liberté financière totale, donc pouvoir totalement être libre sur l'invitation d'un festival, sur d'autres choses, etc. Mais c'est pas le cas, donc il y a quand même malgré tout, faut pondérer. Pardon, je gâche un peu la fête.
Non, mais c'est vrai. Hein, je pense même quand tu reçois des liens de petits films, on sent que tu vas pas t'amuser à le défoncer en fait, le film. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est de chercher un peu la personne à qui ça a plu le film. C'est-à-dire que c'est déjà difficile, je pense, aujourd'hui, pour les films indépendants d'exister dans des salles à réessai. Alors, en plus, si ils reçoivent trois mauvaises critiques dans la presse, hein, c'est compliqué, en fait.
Pardon, je réagis juste à ce que tu disais, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler et dont on va parler. C'est un des ADN très forts de Culture au Point, il me semble être, défendre justement les coups de cœur plutôt que les coups de griffe, en fait. Si c'est un film universal, si c'est un film de grand, de major, etc., qui sort, qui est pourri, on peut se permettre de le dire parce qu'à la limite, la pérennité du film n'est pas liée à Culture au Point.
Ou vous permettre de ne pas en parler aussi.
Par contre, un petit film qui est mauvais, quel est l'intérêt d'aller taper dessus, de prendre le risque sur un film qui va avoir 2-3 écrans sur Paris et d'être le seul article ou un des seuls articles qui va être à une étoile sur Allociné ou autre et qui va décourager les gens d'y aller. Donc l'idée, c'est vraiment partager nos coups de cœur ou si vraiment le film ne nous a pas plu, dans ce cas-là, à la limite, ne pas écrire dessus.
Oui, en fait, on ne va pas tirer sur l'ambulance. À l'origine, nous, quand on a commencé le site, le but, c'était vraiment de partager des passions, hein, vraiment de partager des coups de cœur, des films récents ou pas, des films surtout, moi je parle pour le cinéma, des films souvent complètement oubliés qu'on avait envie de faire renaître en donnant envie de les découvrir. Et donc quand on a commencé à travailler avec les attachés de presse, moi j'avais dit à mon équipe, vous allez essentiellement parler des films que vous aimez, vous allez les défendre, et les films que vous n'aimez pas, ne vous sentez pas obligé d'écrire dessus, on va les oublier autant que vos critiques, quoi. À la limite, c'est un peu ce que je disais. Et puis après, plus ça a marché, je me suis quand même interrogé sur l'idée de faire quand même des critiques négatives, tout simplement aussi parce qu'on a on est sur Allociné maintenant, et si on se retrouve avec que des films à 3-4 étoiles, on va passer pour des bisounours qui aiment tout, quoi. Et donc l'idée, c'était quand même à ce moment-là de proposer même des critiques négatives courtes, mais effectivement sur des films plus sur des gros films que sur des petites productions qui ont déjà quasiment aucun qui risquent d'avoir aucun succès de toute manière, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est que les petits films, on va plutôt les défendre que les descendre, quoi. Enfin voilà.
Some thought is not a good way to spend lifetime. The fall coming.
C'est un morceau d'Al Carpenter qui est issu de son album récent The Force Coming. On reprend l'entretien avec l'équipe du webzine Culture au Point.
Alors, je vais peut-être revenir peut-être en arrière, qu'on parle de la constitution de l'équipe. Là, actuellement, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient là dès le départ ou ça s'est complètement renouvelé
En fait, il y a quasiment là, ici présent, il n'y a que moi. À l'origine, on était une. Je crois que les premiers, on devait être 5-6, je pense. Et effectivement, c'est une équipe qui se renouvelle en rubrique cinéma. On est plus d'une vingtaine. Mais c'est nettement moins significatif que dans une autre équipe de journalistes cinéma, parce qu'en fait, le bénévolat, ça implique tous qu'on fait quelque chose à côté, et donc qu'on peut pas tous écrire de façon régulière. Et donc dans cette vingtaine de rédacteurs, il y en a qui écrivent plus ou moins régulièrement, il y en a qui font des pauses et qui me disent là je suis sur un projet, là je vais pas écrire pendant un petit moment. Je reviens dans un mois. Enfin voilà, quand on dit qu'on est nombreux. Il y en a qui écrivent de manière hyper régulière comme Michael, comme Éléonore, Emmanuel aussi, mais voilà, il y en a plein d'autres qui écrivent de manière plus sporadique.
Et là sur vous sept, il y en a combien qui écrivent uniquement sur le cinéma?
5
quand même.
Ouais. Alors
oui.
Oui.
J'en suis.
J'écris un peu en littérature jeunesse aussi.
Et moi en cinéma inversement, parce que voilà. je viens de la section cinéma à la base. Donc c'est. Oui, les choses sont poreuses, parce que comme à partir du moment où on est parti du principe qu'on est dans un partage des coups de cœur, rien n'empêche quelqu'un qui va découvrir un livre dans lequel duquel il est tombé totalement amoureux de venir le défendre dans la section littérature. Il y a une porosité qui se fait de la même manière que j'ai récupéré la partie littérature, ce qui ne m'empêche pas d'aller couvrir des festivals, de temps en temps de faire une sortie cinéma, de temps en temps de voir un documentaire ou autre. Donc c'est vraiment très poreux et très. C'est assez organique comme fonctionnement, et je trouve que ça marche assez bien, même à 20 personnes. On arrive bien à organiser, même sur la partie ciné, sur qui gère quoi, etc. Ça se fait toujours de manière très organique, je trouve.
Dans la mesure où les arts sont poreux, on peut rebondir rapidement le cinéma vers la littérature, le théâtre vers la littérature, le cinéma vers le théâtre. Enfin, il y a quand même une porosité qui nous permet aussi parfois d'amastiguer les champs sur lesquels on n'est pas physiquement rattaché à Culture au Point, mais sur lesquels on peut se déployer. Moi, j'écris sur la musique, sur le cinéma ou autre. Et effectivement, on peut sortir de notre rubriquage qui est assez artificiel quelque part.
Et on parlait de critiques positives ou négatives. Vous, Jean-Nicolas et Alban, est-ce qu'en matière de livres ou de spectacles vivants, il vous arrive de faire des critiques négatives ?
Vas-y.
Moi, carrément. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que c'est mais avec toujours cette même idée, c'est-à-dire qu'un premier livre d'un jeune auteur qui publie dans une petite maison, je vais faire une critique négative, on va sentir que la critique est négative, mais je vais lui trouver quand même quelques points positifs. Un truc dans La Blanche de Gallimard qui est vraiment pourri, je vais pas hésiter à dire ce que je pense vraiment.
Et puis il y a une vraie question derrière, quand on est dans l'indépendant, est-ce qu'il vaut mieux ne pas parler du tout d'un film ou d'en parler même négativement? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de petits films qui passent complètement sous les radars de la critique, hein, même pour en dire du mal. Parce que moi, en tant que spectateur, je vais voir des films qui sont très mal critiqués. Parce que, au contraire, une critique négative peut me donner envie d'aller voir un film. C'est curieux, mais c'est comme ça. Soit parce que je fais pas confiance aux médias que je vais lire, soit parce que ça m'intéresse, tout simplement.
Pour terminer sur ce sujet-là, là où tu as raison, c'est que on peut être dur, mais ça va être un peu bateau ce que je veux dire, on peut être dur mais constructif, c'est-à-dire que aller, comme dit, mettre à mort un livre qui où la personne a essayé de tenter quelque chose, on va pas le faire, ou un spectacle, on va plutôt souligner tout ce qui a été tenté en disant bah c'est pas abouti et puis il y a ça qui pose problème, etc.
On est avec un ami un artiste qui a fait on a été voir son film et puis pendant la séance on se dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de gentil à dire,
avoir des amis auteurs qui écrivent et qui, quand on lit leur livre, ils nous tombent des mains, on trouve ça affreux, c'est horrible d'avoir des amis artistes. Moi, je veux, dès qu'on me dit qu'on est artiste, c'est fini, il y a rien, c'est pas possible. Et par contre on peut être pris au jeu d'être, pour un bon mot, d'être assassin et en fait d'être très mauvais. Moi, ça m'arrivait d'écrire des critiques, ça me faisait marrer de défoncer un truc, et avec le recul, quelques années plus tard, je dis non, t'aurais pas dû écrire ça, c'était vraiment naze. Et c'est le danger, en fait, quand on veut, pour le bon mot, parfois on peut être pris un peu au jeu de la critique assassine. J'ai pu le faire, mais il faut qu'on fasse attention avec ça. Mais m'est arrivé, moi, de faire des critiques où je suis pas très fier d'avoir été, d'avoir défoncé quelqu'un pour le bon mot.
Par contre, on n'a pas le positionnement, comme ont pu l'avoir d'autres qu'on ne citera pas, de blog ou de webzine de petits cons. Qui peut y avoir, qui est très facile et qui justement donne un truc très qui est beaucoup plus efficace pour partager sur internet et autres, de justement de cette critique assassine ou de vraiment qui a eu à un moment donné à la mode notamment dans la critique ciné de petits cons, quoi, de mecs qui regardaient de haut toutes les œuvres, toutes les choses pour juste le plaisir de les assassiner dans leurs articles. Et ça, on n'a pas cette chose-là, et il faut rendre hommage pour le coup à Olivier qui a toujours insufflé ce truc-là, de dire voilà, c'est la passion avant tout, avant, c'est pas un moment d'ego d'assassin, c'est facile à faire en fait, assassiner. Ouais.
Par rapport à ce que disait ça et par rapport à ce que disait Alban avant, c'est vrai que quand on suit des auteurs, alors on marche, on joue le jeu à chaque fois. Parfois, ça arrive qu'on me pose la question si je regarde un film professionnellement, mais on ne regarde jamais un film professionnellement, on est toujours un spectateur. Et un spectateur qui marche, moi je joue le jeu. Alors après, il y a des choses qui me parlent moins, mais bon, j'essaie de voir ce qui est en train d'être fait. Donc c'est pour ça aussi que parfois on peut avoir des déconvenues par rapport à des auteurs qu'on suit et qui nous déçoivent fortement. On va pas, de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse dire de négatif dans cette logique-là qui sera pas porté par une reconnaissance quand même du travail de la personne et de la qualité du travail de l'auteur en question, de toute façon. Donc c'est pas du tout la même démarche, effectivement, que l'idée j'aime pas, ou l'idée je vais casser du film ou du livre, enfin ça, voilà, parce que on écoute, et la démarche de départ c'est surtout d'être ouvert à toutes les propositions.
Alors moi, il y a un truc auquel je tiens dans le choix de mes rédacteurs, c'est l'argumentation. C'est-à-dire que si on n'aime pas un film, il suffit pas de le casser, de le démolir. Il suffit d'analyser pourquoi, selon nous, il est mauvais. Si il s'agit juste de lancer des pics, pour moi, c'est une critique ratée, et j'en veux pas, quoi. Et dès le départ, même dans la sélection de ceux qui m'envoient des textes éventuellement pour participer à l'équipe, c'est vraiment un truc qui est essentiel pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a deux types de critiques que je refuse. C'est la critique de ceux qui racontent le film de manière linéaire et qui croient le critiquer, et d'autre part ceux effectivement qui lancent leurs critiques comme des punchlines, quoi. C'est deux trucs que je refuse. Il me semble que c'est peut-être un peu ce qui peut faire aussi notre singularité, notre particularité sur Culture au Point, c'est un peu d'échapper à une écriture théorique, on va dire, qui se base sur les deux grosses chapelles qui étaient les cahiers ou positifs. Et il me semble que nous, on essaye de justement plutôt de transmettre, non pas de transmettre un savoir, mais de transmettre une passion, c'est-à-dire de faire un pont entre nous et le lecteur qui permettrait de dialoguer avec eux à travers notre critique, quoi. C'est-à-dire de leur donner envie d'aller voir et peut-être d'imaginer. Alors c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais d'imaginer si on a une passion pour un film, par exemple, leur regard s'émerveiller de la même manière qu'on a pu s'émerveiller nous. C'est un peu ça pour moi. Quoi. C'est un peu comme ça que je vois la critique de cinéma, en tout cas.
Hey, folks, do you ever have trouble spelling Mississippi? Well, here's a song that makes it easy. Just sing along with me and the bouncing ball.
Out, baseball cap in the clouds. Matter of fact, it's happening now. All I remember is an act for acting iffy and a dip till it's uncle. I'm trouble after 10 Mississippi. Tick, tick, tick. These pets free a single beat of sweat. Who'll bring his friends soon? The ringer tea is drenched and Jesus wept. Maybe I'm bluffing, all it takes a little patience. Then why you in the bushes? My goodness, don't make me say it. Nah, Mississippi on the roof of my road. Beating a scramble while you scramble for a suitcase of clothes. You the history of the 8 Mississippi controversy. 9 was shorter than 10 and 8 came early. No. 8 go to the tape. It's one Mississippi after being frozen in place. Get the dough from the safe. Get the pops in the van and go. 7 Mississippi, Mississippi, goddamn. Mississippi. Down came the rain and washed out the itsy bitsy. It's a knot in the pity like a chipmunk in the chimney. The shit that make you spit up all your snickerdoodles quickly. Stick less, move more. Never sold merch because the merch reads I survived the Mississippi group tour. I probably should have picked a different slogan like I ran the fuck away. I maybe would have sold some. 5 Mississippi, nobody's safe. No halftime show, that explosion is ace. Close range or in motion over open terrain. Scope a dope, shoot your homies the same. Don't change. Sand through the hourglass, thugs in a dungeon. 4 Mississippi's to press the call button. Call someone, kid, the season is near. We both know the next digit is uneasy to hear. Yeah. And all you consume. 3 Mississippi sitting pretty down for the count. Shouting raw hive, marks flying out of my mouth. We've been started from the magma, parted to the astral. Nomad, no habitat, feels natural. Nowhere to run to, nothing to run towards. But 2 Mississippi walk right through the front door. This is awkward, yeah, I feel it too, but it's you. Great straight, you have some bullshit to prove. How about we check back on all of that, reveals in a move. When 1 Mississippi get the ish to do what it do. Okay, shrinking numerals, blinking light bulbs. A dozen Hail Marys with both of your eyes closed. I'm saying, take a breath and picture something pleasant. This is absolute zero in every possible present, yeah.
So I played them like a hippie.
Vous écoutez Radio Libertaire, c'était Mississippi par le New-Yorkais Blockhead. C'est extrait de son album The Ox. On reprend l'entretien avec l'équipe du webzine Culture au Point. Et on va parler de l'influence de la critique. Est-ce que vous pensez que la critique de cinéma, enfin en tout cas ouais, pour le cinéma en tout cas, est-ce qu'elle a autant d'importance qu'elle a pu avoir avant? Alors, je pense à ça parce que j'étais à un festival il y a peu de temps avec 4 ou 5 cinéastes qui font des documentaires sur le cinéma, et je leur demandais quelles revues ils lisent en fait pour de quelles revues ils cèdent pour choisir des films, et ils me disaient qu'ils en lisaient aucune. Et ça m'a vachement surpris. Je crois que leur réponse c'était qu'ils regardaient les bandes annonces.
Alors, ouais, non. Enfin, je répondrai par non, mais non en catégorique. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec la critique, plus qu'avec les films d'ailleurs. Et je pense qu'il y a toute une cinéphilie qui s'est construite à travers les revues en fait, les revues de cinéma, parce que notamment si on habitait à la campagne, comment on allait voir les films. Donc, on fantasmait les films. Je pense qu'il y a une cinéphilie qui a fantasmé les films. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que tout est à portée de main, on peut voir tous les films. Et je pense qu'il y a plus de besoin de la jeune cinéphilie, hein, de lire la critique. Ils lisent peu de critiques. Ça arrive, hein, évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qui a un peu disparu. Donc c'est vrai qu'après, sortir un peu du lot, c'est pas le truc évident, en fait. Hein. Moi, j'arrive pas trop à me rendre compte après. Mais moi, je continue à lire de la critique, mais je vois qu'autour de moi, même ceux qui ont lisé, en lisent de moins en moins, en fait. Hein.
Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, finalement. Les gens se réfèrent aux avis spectateurs d'Allociné plutôt que, à la limite, aux revues de presse. C'est vrai qu'aujourd'hui, la critique, quel est le poids de la critique aujourd'hui? Moi, franchement, je me pose la question. Moi, je sais que j'écris de la critique parce que j'aime, dans un sens réflexif, quand même théoriser les choses, inscrire les auteurs dans tout un paradigme autre chose. Mais en soi, je me demande aussi quelle trace ça laisse. Moi, je pense que ça ne laisse pas nécessairement de trace indélébile, quoi.
Je ne sais pas si c'est une question de trace, je pense que c'est une question de vie. Je pense que la cinéphilie, la mienne en tout cas, et il n'y a qu'à voir l'engouement des gens pour le Masque et la Plume et ce que fait le Masque et la Plume. Tout le monde appelait notre émission, on avait fait une émission à une époque, Chaos sur le Ring, sur Radio Néo, où on débattait façon Masque et la Plume, et c'est justement la référence qui vient à tout le monde, parce que tout le monde adore ça, parce que une cinéphilie, notre cinéphilie, ou notre culturophilie, n'importe quoi, vient du fait qu'on aime débattre. Faut regarder les gens qui sortent du cinéma. Aller au cinéma, c'est presque autant fait pour en parler avec son pote avec qui on allait voir le film. On allait voir le film juste après. Et voilà, c'est ça en fait qu'on essaye de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça. Tu parlais de critique linéaire ou raconter le film. C'est vrai que les gens parfois croient que la critique, c'est critiquer dans le sens dire du mal. Enfin. Il y a des gens qui croient que c'est justement faire un pitch pour que les gens aillent le voir ou pas. Et d'où se pose la question des spoilers. Chez nous, la question s'est jamais posée, parce qu'en fait, déjà, un, si 2 pages de texte peuvent gâcher un film, ben, c'est que le film n'était pas bon. Et deux, c'est parce que on raconte pas, on est déjà en train de construire à des possibilités de discours. Il faut bien dire des éléments du film, il faut bien en extraire des éléments, mais ça va pas déflorer le film. Enfin voilà, c'est une matière vivante qu'on essaye de faire passer, non?
Mais alors, ce qui s'est énormément développé ces dernières années, je pense que c'est un phénomène qui a 3-4 ans, on parlait du Masque et la Plume, ce sont les podcasts sur le cinéma. Alors que tout le monde aujourd'hui, avec les chaînes YouTube aussi, mais alors les podcasts sur le ciné, il y en a, ça a fleuri comme ça, mais d'un coup en fait, où tout le monde donne son avis, parce que c'est plus simple hein, de parler cinéma comme ça entre nous, avec 4 personnes, que d'écrire réellement des articles qui sont structurés. Mais ça s'est vraiment développé, et c'est très écouté en plus.
Mais ça montre que ce qu'on aime, hein, quand même, continue de vivre. Donc tant que ça continue de vivre, il y a une place pour la critique, telle qu'on la pratique en tout cas. Voilà.
Et puis c'est des podcasts qui s'éloignent un peu du Masque et la Plume, qui est quand même devenu vraiment un truc de vieux et d'échange de narcissisme, quoi. Enfin, donc ce qu'on essaye de, c'est un peu, parce que bon, le narcissisme en matière de critique, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Bah, ça aussi, c'est un truc auquel j'ai fait attention dès le départ, et je pense qu'on est un peu sauvé là-dessus par rapport à Culture au Point. C'est les, comment dire, Je pense pas qu'on soit détruit par les égos et les batailles d'égos. Il me semble qu'on a tous, dans l'ensemble une forme de modestie dans l'approche de l'écriture qui fait qu'on échappe un petit peu à ça. Enfin, à mon sens, j'espère.
C'était Martine Rêve, le clavier du duo Suicide. C'est extrait d'un album qui est formidable, qui s'appelle The Sum of Wounds, avec des enregistrements cassettes de 73 à 1985. On reprend l'entretien avec l'équipe de Culture au Point. On va entendre Alban Orsini, qui est critique théâtre, qui va nous parler de l'écriture journalistique.
Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur la signature, je trouve que ça, enfin, à titre personnel, je trouve ça hyper important parce que justement, à mon sens, moi, sur le théâtre, j'ai peut-être moins les problématiques que vous pouvez rencontrer sur la critique qui déborde dans le cinéma. On voit qu'entre les influenceurs, les podcasts, etc., il y a une offre énorme de critiques, entre guillemets, qui apparaît. Sur le théâtre, on est beaucoup moins présent sur le sujet. Et moi, je me pose pas cette question. J'essaye de faire, d'avoir une écriture qui me ressemble parce que j'essaye de dire que ce que je vais critiquer, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est très personnel, c'est très organique et je m'amuse même dans mon écriture à travailler mon écriture pour faire ressentir la sensorialité d'une pièce, c'est-à-dire que si je veux avoir une pièce qui est très technoïde ou qui, j'ai des exemples comme ça qui me viennent, qui sont très technoïdes, très cutupées entre guillemets, etc. Ben je vais m'amuser dans mon écriture à faire ressentir ça. Donc je pense qu'il y a une volonté aussi, en tout cas c'est la ligne qu'on écrit, d'essayer par l'écriture de faire ressentir ce qu'est la pièce et de travailler là-dessus. Et je trouve que avoir une patte, avoir une écriture, là où effectivement on pourrait penser à la critique comme un exercice très lisse ou au contraire on va découper de manière très scolaire les choses. Au contraire, moi je m'amuse à chaque fois à me dire tiens quelle est la tonalité que je veux prendre pour faire ressentir ce qui a été la proposition du spectacle que j'ai vu. Si je vais voir un spectacle qui est très référencé littérairement, bah, je vais essayer de choper toutes les références. Je suis très attaché au texte, je vais me taper les textes multiples et variés sur le spectacle et j'aime bien faire ressentir ça en fait, faire ressentir la sensorialité et ce qu'on éprouve dans un spectacle. Je pense que c'est calcable si on le souhaite, sur tous les arts qu'on peut critiquer quoi.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, vraiment. Ah ouais. Et le fait de le faire ressentir, c'est encore une... transmettre quelque part, mais quasiment une sensation, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais.
Tu sais que je me dis à chaque fois que à chaque article, je change de style selon le film. Ouais. Ouais. Et entre parenthèses, sur 1917, que j'ai bien aimé. Hein, je... Bref, sur 1917, j'ai fait une phrase de, je pense, 25 lignes. Ah ouais, ouais.
Très bien.
Eh ben, écoute, ouais. Je me suis rendu compte après, j'ai pas fait exprès.
Mais on a cette liberté-là, effectivement, de pouvoir. Voilà, on pourrait pas faire ça dans un média, entre guillemets, très sérieux, mais très traditionnel. On aurait pas cette liberté-là de travailler ça. Et parfois, on se plante. Hein. Moi, je sais, quand je lis des biotechs, mais qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est mauvais, c'est pas bon. Mais on a ce enfin, en tout cas, moi, j'ai ce goût-là d'être le pote qui sort d'un spectacle, qui va être soit enjoué, soit en colère, etc., et d'être dans cette émotion-là, quoi.
On n'est pas bon lecteur de ses propres textes, déjà. Donc ça, c'est toujours compliqué. Non, moi, il y avait un truc que j'apprécie beaucoup, en fait, en écrivant dans Culture au Point, c'est de pouvoir faire, surtout, moi, des grands écarts. Sur la cinéphilie, c'est-à-dire pouvoir aussi bien traiter un film qui va être édité chez Uncut Movie, par exemple, et c'est des films d'horreur un peu trash, parce que je l'ai fait une ou deux fois, que de parler de Ritipan, de films d'auteur un peu expérimentaux. En fait, voilà, moi, j'ai toujours été attaché au genre. J'ai écrit au départ, avant Culture au Point, dans des revues spécialisées un peu dans le genre, sur des sites, hein, plutôt, pas des revues. Et ça me manquait de pas pouvoir parler d'autre chose, finalement. Hein, je trouve que le côté très, soit dogmatique, soit très sectorisé par genre, c'est un peu aussi un problème dans beaucoup d'endroits. Et là, au moins, je peux écrire sur aussi bien, je sais pas, hein, sur Dario Argento que sur Jean-Luc Godard, en fait. Mais c'est con, mais ça m'intéresse.
Alors, dès le départ, moi, ça correspond aussi à ma cinéphilie de jeunesse. Hein, c'était à la fois de voir des films de Hennon Lauter comme Brain Damage ou Basket Case, et puis d'un autre côté, du Mizoguchi ou du Bergman, quoi. C'était ça dès le départ. Le fait de refuser totalement la cinéphilie de chapelle, quoi, comme on dit. Et dès les débuts de Culture au Point, moi je me marrais en voyant les concours qu'on avait, parce que je crois que la même semaine on se retrouvait avec Richard III de Laurence Olivier et Journal érotique d'un notaire de Jean-Marie Palardy à faire gagner, où je crois qu'on avait un Palardy et Laurence Olivier, quoi. C'était, et pour moi typiquement, c'était, enfin, symboliquement, c'est un truc que j'ai gardé. Pour moi, c'était, voilà, c'est ma vision du cinéma, effectivement, les grands écarts, quoi. Et de la même manière, par rapport à, comment dire, par rapport aux critiques, on se retrouve aussi au niveau des reprises avec des films qui ont été traités des milliers de fois et sur lesquels on doit retravailler. Par exemple, je sais pas, on n'a pas eu de ressortie de Vertigo, mais c'est le genre de film sur lequel on n'a pas forcément envie de réécrire parce qu'on a l'impression que tout a été dit. Et là, pour le coup, avec les différents âges de l'équipe, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter parfois un regard neuf sur des films qui ont été traités des milliers de fois. Alors typiquement, je vais donner l'exemple d'Éléonore. Éléonore, il y a eu la ressortie récente du coffret Argento, et je voulais qu'on écrive dessus, et en même temps, je me demandais quel biais on allait choisir pour aborder Argento, sur lesquels, là, tout le monde écrit, tout le monde a déjà écrit, et là pour le coup maintenant Argento, qui était détesté pendant une certaine période par les cahiers, maintenant c'est un cinéaste que tout le monde adore et tout le monde traite, hein. Et je me suis dit, je vais essayer de prendre quelqu'un qui connaît absolument, qui a jamais vu de Argento, qui sait quasiment pas ce que c'est. Et donc j'ai filé à Éléonore trois ou quatre films, je sais plus. Ouais.
Et L'oiseau au plumage de Christelle, Le chat à neuf queues et Profondo Rosso.
Et pour le coup, je me suis dit, je tente, je vais lui apporter quelques références, je vais lui donner deux trois trucs à lire, et je vais tenter de lui faire découvrir avec un regard totalement neuf. Et résultat, ces critiques, moi je les ai trouvées géniales, parce que j'avais l'impression quasiment de lire enfin des nouveaux trucs sur Argento, qu'elle même me faisait découvrir des trucs que j'avais pas vus, parce que son regard était jeune et son regard était neuf. Et ça, ça, pour moi, ça, enfin, moi personnellement, sur Culture au Point, c'est une de mes plus belles expériences critiques récentes, c'est d'avoir lu c'est les textes d'Éléonore sur Argento, qui découvrait un cinéaste avec ce regard neuf.
Quoi. Et oui, du coup, j'ai vraiment adoré écrire dessus, parce que, il y avait tellement de choses qui s'en mêlaient, enfin, que ce soit au niveau de, enfin, il y avait un aspect enquête policière. Des aspects un peu psychanalytiques, enfin, et il y avait tellement de choses, il y avait tellement de choses à dire sur ces films, et enfin, du coup, je trouve que c'est extrêmement riche, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré. Et après, du coup, j'en ai vu plein d'autres.
C'était la musique du film Profondo Rosso par les Gobelins. On va parler maintenant trailer avec l'équipe du webzine Culture au Point. On va entendre d'abord Olivier Rossignol, puis Emmanuel Legagne.
J'aimerais bien qu'on parle des bandes annonces là en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'elles sont
très mensongères en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, il y a une espèce de truc d'efficacité. Des fois, il y a des bandes annonces très rythmées pour un film qui est assez lent, quoi.
Les bandes annonces, c'est maintenant, c'est devenu aussi affreux que l'ensemble des affiches de films d'ailleurs. C'est un peu, c'est effectivement, c'est que du, c'est que du... oui c'est complètement enfin je sais pas ce que t'en penses Manu par exemple, moi je trouve ça complètement mensonger effectivement, et elles sont toutes montées de la même manière. Et alors je me renseignais par rapport à j'ai une amie brésilienne et je lui demandais si c'était pareil au Brésil, et apparemment elles sont toutes foutues de la même manière quoi, c'est vraiment une manière d'attirer le... Alors typiquement par exemple parmi les bandes annonces mensongères, j'ai vu récemment Les Chambres Rouges, le film canadien. Ouais. Typiquement, quand on découvre le film après avoir vu la bande annonce, le film est radicalement différent de la bande annonce est totalement mensongère, quoi. C'est vraiment
dans son rythme, quoi.
Dans son rythme, même dans son univers, dans le récit, dans la manière dont il expose brièvement l'héroïne, c'est vraiment, on a l'impression que la bande annonce a quasiment réussi à faire un contresens du film, quoi. Enfin,
il se moque complètement du sens du film. Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de spectaculaire, éventuellement, qui va attirer les gens. Moi, je suis content de voir les bandes annonces des comédies navrantes françaises, comme ça m'évite d'aller les voir, parce que les trois gars qu'il y a dans le film, tu les as dans les bandes annonces.
Ouais, c'est là où c'est, je pense, que je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est que maintenant les bandes annonces, je pense que l'objet a changé. Auparavant, c'était fait par des amoureux du cinéma qui voulaient vraiment être dans la création. Les bandes annonces, c'était vraiment des petits films parfois qui étaient très indépendants d'ailleurs des films. Maintenant, les bandes annonces sont faites par des communicants, des agences de com qui sont là pour faire de l'argent et pour ramasser le plus d'entrées possible.
C'est des pubs.
Hein. Ouais, donc l'objectif est plus du tout le même. On peut se dire que c'est une mauvaise chose. Je suis d'accord pour dire que moi, c'est une mauvaise chose aussi. Mais le but est plus du tout le même. Là, c'est vraiment le côté mercantile. Il faut donner envie d'absolument de venir, quitte à trahir le film, quoi. Et c'est plus des artistes qui les font véritablement, c'est des communicants.
Mais le but était le même quand même, parce que oui, le but, mais c'est quand même de donner envie de.
Quand tu vois des vieilles bandes-annonces des films des années 80, parfois, t'avais vraiment un truc qui était beaucoup plus arty. Enfin, il y avait vraiment une patte artistique. Là, c'est pas des artistes, c'est au contraire des communicants. Ils sont là pour que le film, en deux secondes, tu aies envie absolument d'aller non pas voir le film, mais payer ta place.
Mais c'est vrai, c'est une dérive qu'on a. Alors nous aussi, on a peut-être protégé sur la littérature et le théâtre, mais c'est de plus en plus aussi le cas d'avoir cette espèce de côté mercantile qui arrive véritablement. Moi, j'ai parlé pour ma pomme dans le. Maintenant, les grandes familles du théâtre et justement qui sont cooptées, où on a vraiment des blockbusters maintenant, ce qu'on n'avait pas forcément auparavant, qui sont vraiment conçus comme des produits. On voit vraiment qu'il y a des produits dans le théâtre maintenant qui arrivent depuis 10-20 ans, et en littérature c'est un peu la même chose, mais on n'est pas encore dans ce rapport très 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 aussi violent.
Tu fais allusion à quoi
sur le théâtre? Il y a des gens qui sont très beaucoup mis en avant, notamment dans le théâtre privé, alors que je trouve que c'est un théâtre qui est plutôt pauvre, mais parce que ils arrivent à avoir plus de fonds, ils arrivent à avoir un réseau. Il y a toujours eu des raisons dans le théâtre, hein, je dis pas l'inverse, mais on a parfois un théâtre très pauvre qui arrive dans des grandes salles avec une super production, alors que d'autres agences ont moins de facilité. On voit aussi beaucoup ça dans la danse. Il y a eu des affaires de plagiat, des artistes qui ont été attrapés pour du plagiat, mais ça les touche à peine en fait. Donc on peut dire que toute leur œuvre c'est du plagiat, mais finalement c'est pas trop d'impact parce qu'ils ont le bon réseau et ils vont avoir des bons financements, et c'est devenu une lutte pour contrôler des théâtres, etc.
Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de 3 chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène.
Mon client plaide de non coupable, monsieur le juge.
Tu sais que c'est sa fête bientôt?
Dans 3 semaines, oui.
Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau?
J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit.
Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges.
Tu l'entends de voir ça, on entend ça?
Non, on l'entend jamais.
Comment tu sais ça?
Une mannequin full célèbre ou genre une joueuse de poker full riche?
Il y a pas tant de chance au poker. Moi, c'est mon trip, là, les voir toutes perdre.
T'es evil.
Ah, c'est ça le jeu.
Le shoot est annulé. Je sais que ton brand est NG, mais là, ça a vraiment dépassé les bornes.
Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien.
Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre?
Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout.
Tu sais, Kylian, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi?
Je
C'était la bande-annonce mensongère des Chambres Rouges. Avec l'équipe de Culture au Point, nous allons parler de la relecture actuelle des films anciens. Ces derniers temps, moi j'ai eu alors je m'occupais un peu, je programmais dans un cinéma qui était occupé, La Clé, et il y avait des programmateurs qui étaient très cinéphiles ou alors très militants, et on n'était pas toujours d'accord sur les mêmes films. Je voulais savoir si et ça permettait de des gens militants, ça permettait aussi d'avoir une revision sur des films, quoi, enfin de les revoir différemment. Vous voyez ça comme chose de positif, j'imagine, l'apport que peut avoir le féminisme sur la relecture des films actuellement, ou sur des mises en scène au théâtre ou des choses comme ça, ou parfois comme une forme d'opportunisme.
Un peu des deux. Il y a, enfin, je sais pas si ouais, tu veux. Ouais, c'est un peu une question épineuse. non, je pense que la relecture, la réanalyse des films, elle est importante, elle est essentielle. Mais je pense que le gros problème, je pense qu'il y a un gros problème qui est le fait de ne jamais recontextualiser les films. C'est-à-dire que souvent, régulièrement, on réanalyse les films en les changeant d'époque. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on les attaquait en les remettant là, maintenant, comme s'ils étaient faits maintenant, ce qui est totalement faux. Et je trouve que c'est un gros problème. Je trouve que c'est un gros problème également dans les grilles de critique actuelles pour les films actuels. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une grande importance de la libération de la parole en matière de critique, mais j'ai l'impression je vais peut-être me faire mal voir, qu'on rentre dans de nouveaux dogmes, en fait, hein, de nouveaux dogmes et une nouvelle phase de censure critique, où dès lors que ça ne rentre pas dans le nouveau moule et dans la nouvelle vision qu'on est censé avoir, les films sont rejetés d'emblée. C'est-à-dire que typiquement, moi je vois le Justine Triet, qui est pas un film que j'aime beaucoup. Je pense que la grande raison pour laquelle il y a une espèce de consensus total, quasiment total, autour de ce film, c'est qu'il rentre parfaitement dans la grille actuelle, quoi. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas, pour moi le film ne dépasse absolument pas de ce discours qui est un petit peu envahissant. Donc je pense qu'à la fois, moi, j'ai une double vision. Je pense que cette liberté, elle est essentielle, mais je pense qu'elle mène vers une, elle peut, faut faire gaffe à ce qu'elle mène pas vers une autre prison, quoi.
Ben, je pense qu'on revient à une grille idéologique telle qu'elle existait déjà dans les années 70. C'est-à-dire que dans les années 70, on avait une critique essentiellement de gauche, la critique ciné, hein, du moins. Et on revient en fait un peu à ça aujourd'hui. Moi, qu'on soit dans une visée progressiste où on remet en question des choses dans des films plus anciens, ça me semble une bonne chose. Le risque, je pense, c'est la disparition d'une certaine cinéphilie. L'exemple pour moi le plus frappant, par exemple, tu parlais tout à l'heure, Éléonore, de films de pirates ou de western, c'est que j'ai peur qu'il y ait des genres comme ça, c'est-à-dire le western, qu'on va balayer d'un coup et qu'on va ne plus regarder parce que ça ne correspond plus à notre monde contemporain. Or, il existe des chefs-d'œuvre, et surtout, si on les regarde bien, on peut s'apercevoir qu'il y a des westerns qui sont humanistes, des westerns qui ont une tendance à mettre des personnages féminins très en avant. Enfin voilà, c'est un peu facile de balayer des gens. Et j'ai un peu peur de ça, avec une perte en plus d'une cinéphilie des films anciens. Alors ne parlons même pas du muet, hein, parce que là, on va être encore sur un autre débat, mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est un peu une peur, en fait, que le cinéma, finalement, avant les années 70, ne va peut-être plus trop exister pour la cinéphilie, les cinéphiles à venir.
Pour moi, dès qu'il y a débat, tout est possible. En fait, tu parlais de La Clé. J'ai un peu participé. J'étais un peu aux réunions quand on prévoyait de... Oui. Ouais, j'étais sur la. Alors, on m'avait proposé de présenter des films, mais j'étais un peu. Et donc, j'ai entendu. Je voyais déjà qu'il y avait des tensions entre les personnes selon des choix de films. Je crois même qu'il y avait un. Je croyais qu'il y avait un projet de passer, par exemple, un Bertrand Blier, je sais pas si c'était Les Valseuses ou un truc. Moi, Bertrand Blier, qui est pas un cinéaste que j'adore, Et je voyais très nettement qu'il y avait un conflit, parce que non, pas de Bertrand Blier, c'est misogyne, et voilà, il y avait et donc ce type de conflit qui mène à une forme de censure. Alors pour moi, typiquement, il fallait passer le film parce qu'il mène au débat, justement. C'est-à-dire que moi, le film me dérange sur plein de points aussi. Et s'il est misogyne, il faut le passer, il faut en discuter, il faut en parler. Enfin voilà, typiquement tout film doit être passé, tout film peut être passé, parce que justement, s'il y a débat derrière, s'il y a présentation, s'il y a dialogue, on peut en parler, on peut dire ce qui ne va pas, on peut dire ce qui appartient à l'époque, on peut dire ce qui le rend actuel ou pas. Pour moi, voilà, dès qu'il y a débat, tout film peut passer.
Et ça, en paraphrasant Oscar Wilde, je dirais même que la culture est trop importante pour être prise au sérieux. Cette discussion, elle est amusante, c'est vivant, c'est excitant. Donc, on prend vachement au sérieux les œuvres, et c'est justement aussi parce qu'on les aborde pas justement avec des attitudes comme ça hyper braquées qu'on continue d'adorer.
Et quelque part, je
trouve. Non, je sais pas.
Si c'est vrai.
Je suis un peu. Après, il faut savoir de quoi on parle, mais parfois on parle de redécouverte d'un cinéaste qui a pu avoir des propos très choquants, des attitudes très choquantes, et qui du coup permet de voir son œuvre différemment. Moi, ça m'est arrivé sur beaucoup de tout d'un coup. On se dit, on n'est plus du lore de j'aime pas, ou oh ça va, il faut pas le censurer. C'est dire en fait c'est totalement condamnable par la loi et c'est plus acceptable. Et je veux dire, on peut en débattre, mais n'empêche que maintenant on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Tu vois, regarder un film de Luc Besson maintenant, on peut être très gêné par des scènes qui nous gênaient moins avant parce qu'on n'avait pas cette lecture là. Et moi, je trouve que de rediscuter de ça et de revoir les œuvres différemment, moi je trouve que c'est quand même supra important. Moi, il y a plein de choses que je vois plus de la même façon. Même au théâtre, on a eu Me Too théâtre, etc. Moi, je trouve que c'est au contraire très important de tout d'un coup réinvestir l'œuvre de personnages qui travaillaient par exemple au théâtre beaucoup sur la fatigue des comédiens, que je trouvais sur le papier très beau quand j'expérimentais ce type d'œuvre, mais quand tout d'un coup on voit que c'était sur une relation qui était très hiérarchisée et qui était du harcèlement, tout d'un coup cette œuvre-là devient questionnante. Et je trouve ça passionnant, il faut qu'il y ait du débat. Je trouve que le terme censure est hyper... Je suis gêné par ce terme censure, pour moi il n'y a pas... Il ne faut pas aller sur des mots aussi violents que ça, mais moi je trouve qu'au contraire, il faut tout faire exploser à cause de ces comportements-là. Et maintenant on ne l'était plus, et on peut se dire, ok, cette œuvre était absolument géniale, mais c'est un gros connard derrière, quoi. Et je pense qu'on peut y aller, quoi. Et il faut y aller. Et l'idée n'est pas de le censurer, mais c'est de dire, s'il y a débat, allons-y, explosons-le. Et moi, je veux exploser ces gens-là, parce que c'est plus possible, en fait. Et c'est valable sur plein de choses, sur l'homophobie, etc. Donc, il faut qu'il y ait du débat. Je trouve qu'il n'y ait pas, c'est pas question de censurer ou pas, mais je pense qu'on peut redécouvrir que ce cinéma, Bertrand Blier m'a toujours mis mal à l'aise, parce que j'ai toujours trouvé ça hyper glauque, même quand je les voyais adolescents, je trouve ça hyper glauque, et son cinéma me gêne. Et moi, si on me dit, tiens, faisons ça, ben, j'ai un peu de mal quand même.
Mais je suis complètement d'accord. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, l'attitude paradoxale, ça consiste à le déprogrammer. Parce que pour moi, le fait de, justement, le déprogrammer, c'est l'ignorer. Or, ignorer l'existence d'un, enfin, d'un réalisateur, voilà, c'est créer un mensonge, il existe. Et justement, le fait de le passer et justement d'avoir un débat dessus après, c'est essentiel.
Mais il faut, à mon avis, le recontextualiser. On peut pas se dire, tiens, on le programme et on le recontextualise pas. Je pense qu'il faut
recontextualiser
tout de suite en disant. Et moi, je suis pour la recontextualisation des œuvres quand on sait qu'elles sont problématiques.
Il faut interroger l'époque, le système et toutes les choses qui ont permis cette mise en place.
Pourquoi on a réussi à avoir un cinéma misogyne, comme on oubliait, puis à faire un cinéma qui était aussi misogyne, aussi. Homophobe, Tenue de soirée, mais c'est un film qui m'avait hyper choqué en tant que personne queer. Je peux pas accepter ce type de cinéma, quoi. Il m'a extrêmement violenté, et c'est des images qui diffusaient dans la société. La cage aux folles, les genres de films, il faut les réinterroger maintenant, et c'est super important pour que ça n'arrive plus, quoi. Il y a des gens qui sont détruits derrière, quoi.
Mais je pense qu'il n'est pas forcément... On parle beaucoup de cancel culture, on est un peu sur ce truc-là. Je pense que la cancel culture, c'est aussi un mythe. L'idée n'est pas, quand on est woke, enfin, c'est des termes complètement couillons qui ont été repris beaucoup par l'extrême droite, l'idée n'est pas de canceller ou de détruire les gens, l'idée est simplement réinterroger des choses en disant, bah, tiens, on peut les... il est important de rajouter un sous-titre et de comprendre ce qu'on est en train de voir. Je pense que c'est juste ça. C'est pas l'idée de canceller ou de censurer ou de supprimer. L'idée est de se dire, attention, l'œuvre que vous allez voir ou les statues que vous voyez ou quoi que ce soit embarque quelque chose qui va au-delà du simple imaginaire, qui va dans une vraie réalité avec des choses qui sont désormais condamnables par la loi, et heureusement qu'on en parle beaucoup plus
qu'auparavant. Il faut réinvestir par le...
par le débat et par la critique. Justement, on y revient.
Voilà, mais nous sommes là, en laissant se superposer gracieusement toutes les couches de sens. Ouais.
Moi, je trouve ça passionnant. Je pense qu'on les a pas terminées parce que ça embarque plein de choses, ça cristallise beaucoup de choses et beaucoup de fantasmes aussi. Mais c'est passionnant comme débat et c'est passionnant de réinterroger l'histoire, etc., sur ces sujets-là.
Vous écoutez Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. On va faire une pause en écoutant Guy Bedos faire la critique de Théorème de Pasolini en 1978.
Il passe des trucs drôlement salés à la télé maintenant. Ouh ! Je sais pas si c'était italien ou quoi comme film, je le connais pas ce Pasolini. Eh ben mon ami, ouh ! Je dirais l'Est ! L'Est ! Tu crois qu'il mettrait le carré blanc ou quelque chose? Et pourquoi? C'est plus la peine maintenant. On est moderne. C'est nouveau, ça. On va voir. Ça commence l'histoire dans le film. C'est un jeune type qui arrive dans une famille bien comme il faut. Cossu. On sent qu'il y a de la monnaie. Tu dirais chez le baron en pain, ce genre-là. Je connais pas, mais j'ai vu les photos dans Paris Match. Et alors arrive le jeune, là. Beau gosse, un peu fade à mon goût, mais enfin, il y en a qui aiment, apparemment. Et dans l'histoire, j'ai jamais vu ça. Il nique toute la famille. Il nique la bonne. Il nique le fils. Il nique la mère. Il nique la fille. Et pour couronner ça, jamais j'ai vu, il nique le père. Ça, j'ai jamais vu. Au début, il commence par la bonne. Jusque là, rien à signaler, classique. Il faut dire qu'elle le cherche. Il est là, bien tranquille, sur son transat, à fumer une petite cigarette dans le jardin. Et elle, au lieu de vaquer à ses occupations subalternes, elle n'arrête pas de l'agacer à venir épousser la cendre qui est tombée sur son jean. Comme s'il n'allait pas se rendre compte que c'est un prétexte, dégourdi comme il est. Et que je t'embrasse la main, et que je te fais mes simagrées. Un coup, je pleure, un coup, je rigole, un coup, je mets mes boucles d'oreilles, un coup, je les enlève. Bon, il n'est pas fier. Comme il voit que ça lui ferait vraiment plaisir, malgré que c'est la bonne, boum, il la nique. Et d'une. Après, il essaie de trouver le sommeil. Malheureusement, on l'a logé dans la chambre du fils. Adolescent tourmenté, ils disent, dans le télépoche. Et là, on voit rien vraiment, mais on sent une ambiance assez lourde. Genre Monterland, Roger Perfitte, et compagnie. Oui, compris. C'est rien. Ça commence. Et de deux. La bonne, le fils. Le matin, la mère. Elle est déjà toute fardée, elle erre dans la maison, quand tout à coup, elle tombe sur ses affaires à lui, au héros, éparpillé dans le salon. Le pantalon, le slip kangourou. Manifestement, ça la laisse pas indifférente, d'autant plus que le rôle est incarné par Sylvana Mangano, qui est une merveilleuse artiste. Moi, je me souviens, je l'avais vue dans Rien Mère quand j'étais petit. Mais elle est encore très belle. L'autre, pendant ce temps-là, il est en train de faire du footing dans le parc avec le chien. Sylvana, qui s'est mise toute nue, dommage, c'est elliptique, on voit rien. L'appel du haut de la véranda. Lui, il sent qu'il a le ticket, il se presse pas, il répond pas tout de suite. Pas de confusion, je suis pas la bonne. Il continue à courir avec le chien. Il doit dire, je la nique tout de suite ou je nique le chien d'abord. Une seconde. Finalement, il arrive tranquillos, son petit foulé dans ses baskets. Avec Sylvain Lamangalo qui l'attend couché par terre, tu crois qu'il se bouscule un peu, non? Je me demande s'il n'attrape pas la grosse tête à partir de là. Un peu rouleur sur les bords, quand même. Enfin, il s'allonge sur elle. Malheureusement, elle, on la voit pas. On voit que sa tête. Ellipse. Et deux, trois. Bon, à partir de là, je vous la fais courte. Vous avez compris le processus. Tout le monde passe à la casserole. Superman, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, ça l'amuse plus des masses, il rentre chez lui. Toute la famille devient folle. La bonne donne ses 8 jours et va se faire enterrer vivante par sa grand-mère sous une voie ferrée. Le fils se met à pisser partout dans la baraque. La fille tombe en catalepsie, on est obligé de l'hospitaliser d'urgence. La mère, Sylvana Mangano, monte dans son Austin et stappe tous les jeunes qu'elle ramasse, en souvenir. Et le père, qui a son compte lui aussi, abandonne l'usine aux ouvriers. Il va à la gare, il monte son derrière à tout le monde et on le retrouve complètement à poil en train de courir en hurlant dans la montagne. Fin. Et le speaker avant, il nous dit que ça a eu le prix de l'office catholique. Alors moi, les gosses, demain, je les enlève du catéchisme, hein. Ça va plus, ça. Même les curés, ils perdent la boule, maintenant. Et la télé, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce que c'est, ce cinéma?
C'était Guy Bedos à Bobino en 1978. On va entendre le témoignage du rédacteur lyonnais de Culture au Point, Vincent Nicolet, qui s'est enregistré par lui-même.
J'ai commencé à écrire pour Culture au Point en 2016, donc le site existait déjà depuis près d'une dizaine d'années, il était déjà bien implanté, reconnu et très identifiable. Moi j'habite à Lyon, donc assez vite en fait je me suis rendu compte que au-delà des différents films que je pouvais voir par exemple par lien ou quand je traitais de films du patrimoine où on me faisait envoyer des DVD ou des Blu-ray, j'avais accès à des projections presse et des possibilités d'interview qui parfois étaient peut-être un peu plus délicates à avoir sur Paris où il y avait du monde. Je me souviens notamment en 2017 de l'interview de Julia Ducournau pour Grave qui avait été assez simple à avoir sur Lyon. Apparemment, c'était un peu plus la cohue sur Paris. Donc déjà, j'avais ces petits avantages-là et ces choses que, entre guillemets, je pouvais apporter. Et surtout, je pense que c'est intéressant. Moi, je suis à Lyon. Je sais qu'il y a des rédacteurs un peu à différents coins de France. Ça permet de mettre des visages sur le site dans différentes villes et sur différents événements, et notamment pour ce qui est des festivals. Moi, dès 2017, j'ai commencé à couvrir deux gros festivals sur Lyon que sont Hallucination Collective et le Festival Lumière. J'en ai couvert d'autres par la suite. Et c'est depuis des festivals que je couvre toujours pour Culturo. Ce qui fait que, avec notamment un autre camarade rédacteur également sur Lyon, on est un peu vu comme les visages du site ici, mais comme certains qui habitent dans d'autres villes le sont. Et ce qui permet aussi d'élargir l'horizon du site et d'être un site à la fois national et local, de rendre compte de diverses actualités, de différents mouvements, et pas justement avancer en vase clos, on va dire caricaturalement, uniquement sur Paris. Et notamment à Hallucination Collective, je me souviens avoir discuté avec Cyril Despontin, qui est le directeur du festival, et qui me disait quasiment dans chaque ville où je vais, j'ai l'impression de découvrir un nouveau rédacteur de Culture au Point. Et c'est, je pense, ce qui fait aussi la richesse du site, ces différents profils venus des quatre coins de la France, de pouvoir justement l'incarner, comme je disais un peu plus tôt, pouvoir incarner le site au niveau national et local. Et pour un site qui a été créé par une bande d'amis, se dire qu'il vit à différents endroits du pays de manière active, c'est, je trouve, une très belle évolution.
Eh bien, pour se quitter, on va évoquer vos coups de cœur actuels. Alors, tes coups de cœur littéraires, Jean-Nicolas Chasseur.
Alors, coup de cœur littéraire, c'est un livre qui est paru à la rentrée littéraire de septembre, qui est un peu passé discrètement. Alors, pour moi, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu l'année dernière, qui s'appelle La Fête des Mères de Richard Morgiev, qui est un auteur que je suis depuis pas mal de temps, qui a quand même une très longue carrière. Il a, je crois, écrit une trentaine de livres dans plein de genres différents. Ces deux derniers, c'était deux excellents polars, mais très habités, très compliqués, et vraiment denses, avec des images très fortes. Et là, c'est une histoire qui a l'air assez simple. Qui est la vie d'un ami à lui qui s'appellerait Jacques Beauchaud, qui démarre à Versailles et qui raconte toute sa vie au milieu d'une famille un peu dysfonctionnelle, avec une mère très écrasante, avec une relation très trouble avec cette mère qui est à la fois sublime mais qui est à la fois complètement castratrice. Il y a un père qui revient des camps, qui est absent, il y a des frangins qui... Il y a vraiment quelque chose d'un roman très très classique, mais en même temps avec des images très très fortes et ces espèces d'emportements de poésie et de qui apprime la rétine et qui raconte toute la vie de ce Jacques Beauchaud depuis tout petit jusqu'au moment où il va trouver un moyen de grandir, d'avoir une vie sexuelle, de construire une famille ou pas, de s'échapper de tout ça. Et de c'est 500 pages et c'est incroyable.
Alors, quels sont tes coups de cœur théâtraux, Alban Orsini?
Alors moi, en ce moment, il y a une compagnie qui tourne pas mal en France, qui a pris un peu ses quartiers au Théâtre du Rond-Point et au Montfort, mais qui est aussi en tournée dans toute la France. C'est une compagnie alsacienne qui s'appelle le Monstrum Théâtre et qui travaille autour de la figure du monstre. Ils ont des masques en latex absolument hallucinants, avec des mises en scène vraiment visuellement géniales. Ils ont fait une adaptation d'un texte de textes de Copy, qui est un auteur argentin complètement barré, qui écrivait dans les années 80, qui est donc un spectacle qui s'appelle 40 degrés sous zéro, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Et il tourne également avec d'autres spectacles. Le Mariage Forcé qui est là en ce moment au Théâtre du Rond-Point avec les comédiens du Français. Et il y aura également les Possédés d'Ilfurt également au Rond-Point. Mais là, ils sont en train de jouer, je crois, à Lyon à l'heure actuelle. Donc si vous êtes sur Lyon, avec 40 degrés sous zéro, et s'il reste des places, allez-y. C'est complètement fou. Le texte est déjà fou à l'origine. Mais visuellement, ils sont impeccables. Et c'est vraiment un vrai, voilà, un vrai, vrai coup de cœur en termes de, d'écriture théâtrale.
Eh ben on va passer à Emmanuel Le Gagne. Je ne sais pas si tu as eu des coups de cœur. Enfin, tu peux en avoir plusieurs, hein, cinématographiques.
J'en ai peut-être deux. Alors, j'aimerais parler d'un premier film qui s'appelle donc L'Homme d'Argile, premier long métrage d'une cinéaste, Anaïs Thélène, qui, j'ai appris, était la fille de Carl Zéro. C'est un film absolument remarquable qui déjà nous fait découvrir un acteur étonnant qui s'appelle Raphaël Thierry, qu'on a déjà vu dans les films de Guy Roddy, et notamment Rester Vertical. Et puis c'est une façon de revisiter un peu la Belle et la Bête, une façon très particulière, à la fois très esthétique et très naturaliste. Moi ça m'a, et limite fantastique, j'ai pensé parfois autant au cinéma de Guy Roddy mais aussi à celui de Jean-Claude Brissot, et je trouve que c'est vraiment un très très beau film. Et puis je parlais d'une sortie DVD Blu-ray chez Elephant, ils ont sorti toute une salve de polars italiens qu'on appelle les Polizio Tesco, et dans le lot il y a un titre que je trouve absolument remarquable qui s'appelle La police à les mains liées, et notamment quand on le revoit aujourd'hui, et qu'on a souvent traité ces films d'ailleurs un peu des films droitards, un peu fascistes et tout, et justement celui-là il prend le contre-pied absolu, quoi. C'est plutôt un film très progressiste voire anarchiste qui présente un inspecteur, le personnage principal évoquerait plutôt une sorte de Serpico, un Serpico italien, et un intellectuel qui lit d'ailleurs un roman, Moby Dick, et c'est pas un hasard dans le film, voilà. Mais moi je trouve que c'est un super polar, hein. C'est un film de Luciano Ercoli.
Alors Bénédicte Pro, tu vas nous dire quel film t'ont plu dernièrement?
Alors, c'est difficile. En fait, j'ai toujours des problèmes avec ça parce que souvent le seul coup de cœur que je peux citer, c'est le dernier en date que j'ai eu. Mais en ce moment, je suis en train de me refaire des filmos à rebours sur des. Donc, j'ai fait tout Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, c'est bien, mais franchement, son premier, Stockholm, incroyable. Oh là là, vraiment, dans une moindre mesure, Santiago Mitre. Auteur à regarder, à suivre, un Colombien qui s'appelle Théo Montoya, Agnel 69. Il fait vraiment quelque chose. Je me demande ce qu'il va faire ensuite. Incroyable. Et je suis aussi intéressée par une Brésilienne, mais j'ai vu ça en festival, donc je ne sais pas quand ça va arriver en France. Elle avait fait un film qui s'appelait Charbon. Et là, elle a fait un film qui s'appelle Péage. Et c'est dans le carcan de la société brésilienne, vu avec une espèce de cynisme goguenard très rafraîchissant. Des personnages ont des compas moraux complètement foireux. Donc Carolina Markovitch, une Brésilienne, Théo Montoya, Colombien. Voilà, ça c'est donc des coups de cœur. C'est mes coups de cœur du moment, mais c'est pas forcément d'actualité.
Et oui, Olivier Rossignol, du coup, tu vas nous dire quels films t'ont plu dernièrement, ou évoquer autre chose que des films, si...
Non, gros coup de cœur avec un film que déteste Jean-Nicolas. le gros coup de cœur, moi, c'est l'Antimos, que je trouve complètement fou, complètement exubérant. Plus le film avançait, plus j'avais la sensation de voir un très grand film, au sens où j'ai finalement très peu de vrais coups de cœur, mais là, la sensation d'un grand film au sens d'un grand film des années 70, quoi. C'est un film de l'ampleur de Kubrick. Une fable exubérante, un récit d'émancipation inspiré par une variation autour du mythe de Frankenstein, et qui aboutit finalement à la naissance d'une nouvelle Ève, d'une nouvelle femme qui réinvente le monde en naissant. Et je trouve que là c'est à la fois très très différent des autres Lanthimos, et on voit qu'il développe ses thèmes, et avec une actrice dont j'étais pas super fan, et je trouve que là pour le coup Emma Stone trouve vraiment le rôle qu'il lui fallait pour elle est fabuleuse. Le film nécessite plusieurs visions pour en comprendre la complexité et l'épaisseur.
C'est donc Pauvre Créature, que tu te donnes le titre.
Et oui, tu l'as Pauvre Créature. Oui, oui. C'est Pauvre Créature, donc de Yorgos Lanthimos. Et un deuxième film peut-être.
Allez.
Le voilà mon deuxième film préféré de l'année pour le moment, c'est le Shunderkin. À partir d'un sujet pas très très intéressant qui est Iron Claw, qui parle d'une famille de catcheurs. Plus ou moins un biopic. Alors ce que je trouvais très intéressant dans le film, c'est que on évoque surtout en ce moment beaucoup la notion d'émancipation féminine et la notion de toxicité masculine, et on évoque finalement ça assez peu chez l'homme. Et en fait, il s'agit vraiment d'un récit quasiment d'émancipation masculine et de la manière dont la virilité détruit les hommes, quoi. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un film qui est superbe.
Ben, on va passer à tes coups de cœur, Michael Delaveau. Donc du coup, cinématographique aussi, c'est ouais, bien ça.
Ben moi, je vais un peu rejoindre Olivier sur Pauvre Créature, que j'ai trouvé. Je trouve que c'est un des grands films de ce début d'année. On parlait de féminisme tout à l'heure, de toutes ces choses-là, et je pense qu'il l'est, mais par accident. C'est-à-dire que c'est plus un film sur, justement, c'est ce que disait Olivier, sur la découverte de soi, et c'est une découverte par la jouissance de tout, hein, par la nourriture, par la culture, par la sexualité aussi, beaucoup, par ailleurs. Et je pense que le côté libératoire du film crée du féminisme, finalement. C'est pas la fin en soi. Et je pense que de ce point de vue-là, il l'est véritablement. Du coup, plus peut-être que les grands gestes volontaristes idéologiques de ce mouvement-là. S'il y avait un autre film à choisir sur ce début d'année, je parlerais, on en a parlé tout à l'heure, des Chambres Rouges de Pascal Plante, qui est un film québécois sur le procès d'un serial killer qui tuait ses victimes dans les Chambres Rouges, donc dans les snuff movies, hein, tout simplement. Et c'est vraiment une réflexion sur la manière d'aborder l'image aujourd'hui, une image domestique, une image froide finalement, et le film adapte sa mise en scène à cette froideur, et ça me semble quand même assez perturbant finalement. C'est un film assez perturbant parce que ça nous met en, finalement c'est une espèce de reflet de notre froideur à nous en tant que spectateurs sur des choses qui peuvent être parfois horribles.
On va finir par Éléonore Vigier avec tes coups de cœur aussi, cinématographique.
Moi, ça va être un peu redondant, du coup, parce que c'est aussi Pauvre Créature et Iron Claw. Vraiment, c'est mes deux coups de cœur de début d'année. Enfin, en fait, je trouve que cette année commence très, très bien, parce que j'ai vu beaucoup de films qui m'ont vachement marqué. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que dans Pauvre Créature et dans Iron Claw, en fait, il y a un côté un peu similaire dans la thématique, dans le sens où ça parle du patriarcat, mais dans Pauvre Créature, c'est plus de l'ordre de la comédie, puisque Mark Ruffalo, il est vraiment représenté comme un homme plein d'orgueil, qui cherche juste à multiplier les conquêtes féminines, et il est complètement tourné en ridicule, justement, par le personnage de Bella, de Emma Stone. Et dans Iron Claw, c'est aussi sur le patriarcat et la masculinité, sauf que là, c'est vraiment du point de vue des hommes. Ça montre comment la virilité peut être complètement dévastatrice. Et je trouvais ça vraiment très bouleversant, en fait, parce que, comme disait Olivier, c'est vrai qu'on parle pas souvent de ça. Du moins, dans un film en entier concentré sur ce sujet-là, j'ai l'impression que ça arrive assez rarement. Donc ça m'a vraiment bouleversée. Et puis, par rapport à Pauvre Créature, je trouvais que c'était un sujet très ambitieux. Et pourtant, ce qui m'a agréablement surprise, c'est que je trouvais que c'était vraiment pas du tout prétentieux, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'humour. Donc pas du tout prétentieux, contrairement à la zone d'intérêt, par exemple.
Merci à vous. Oui, merci à eux, à l'équipe de Culture au Point. Donc il y avait Olivier Rossignol, Emmanuel Legagne, Bénédicte Pro, Éléonore Vigier et Michael Delaveau pour parler du cinéma, Alban Orsini pour le théâtre et Jean-Nicolas Chausseur pour la littérature. Pour finir, on va écouter un entretien d'une dizaine de minutes avec Pierre-Julien Marest, qui contribue au webzine Culture au Point, mais là, on va parler avec lui de son travail d'éditeur de cinéma, les éditions Marest,
autour de la sortie récente de 5 livres. Alors, sur Busby Berkeley, Tom Cruise, George Cukor, Paul Schrader et William Friedkin.
La maison d'édition a été créée en 2016. À cette époque, un traducteur m'avait fait part de textes inédits d'Alfred Hitchcock qui n'arrivait pas à placer chez un éditeur. Donc, j'ai décidé de créer la maison pour ça, pour publier des inédits d'Hitchcock. Et par hasard, on est tombé sur un entretien entre Hitchcock et Warhol. Qu'on a publié, qui était complètement inédit, qui n'avait jamais été traduit et qui a très très bien marché. Donc il y avait ces textes d'Hitchcock, assez vite, qui a eu le projet d'éditer, de publier les mémoires de John Boorman, qui étaient inédits en français. Et parallèlement, il y a des autrices, des auteurs qui ont commencé à me proposer des textes de littérature en lien avec le cinéma. Alors je pense évidemment de rencontres déterminantes qui ont été celles avec Luc Chomara et Séverine Danflous. Luc, on a publié un livre qui s'appelle Les 10 meilleurs films de tous les temps, qui est entre l'essai, le récit et la critique presse de cinéma. C'est l'histoire d'un père qui cherche à dresser la liste des 10 meilleurs films de tous les temps pour son fils. Et au départ, il pense qu'ils sont tous de Zou et Tarkovsky dans sa mémoire. Et puis, à force de fouiller sa mémoire, il en vient à un souvenir de Mario Bava et Dario Argento. Et pour lui, c'est aussi important. Il peut pas y avoir de liste des meilleurs films sans Argento, Bava, etc. Et c'est un bouquin hilarant sur la cinéphilie, son absurdité. Donc, j'ai publié ça. Ça a très, très bien marché. Et le premier roman de Séverine Danflous, qui est devenue mon épouse, Brune Platine, qui est l'histoire d'un couple qui travaille à la cinémathèque et qui tombe amoureux et qui ne se parle presque qu'en référence cinématographique. Donc c'est un roman, mais vraiment où le cinéma a une place vraiment importante. Et ça a donné le ton et la ligne de la maison qui est devenue cinéma et littérature. On est à plus de 60. Ouais, on publie entre environ 7-8 par an. Et a priori, on va continuer à ce rythme-là. En gros, il y a deux collections, essais et littérature. Mais souvent, les essais se mêlent avec la littérature et la littérature peut se mêler avec l'essai. Donc, c'est vraiment pour faire deux catégories. Mais de manière générale, on cherche à ce que tout ce qu'on publie ait une tonalité littéraire voilà, dans les essais, en littérature, je classe les mémoires de cinéastes, donc les mémoires de John Boorman, de Richard Fleischer, de Jacques Aumont, de Lotta Eisner, ou aussi un livre qu'on publie là début mai, qui est un livre de Christian Mungiu, cinéaste roumain Palme d'Or, qui a un récit donc, qui a été écrit en roumain, où il donne voix à sa grand-mère, Tania Ionescu, qui a vécu en Bessarabie toute sa vie, et c'est un témoignage sur la vie d'une Bessarabienne, donc une région qui est en Moldavie nos jours, mais qui a été occupée par les soviétiques très longtemps. Et c'est le récit de cette femme qui voit les grands événements du XXe siècle, et ça explique aussi, ça donne des clés de lecture sur le cinéma de Mungiu.
Et là, il y a 5 livres qui viennent de sortir, ça. Tom Cruise, Busby Berkeley, George Cukor, Schrader et Friedkin.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est les 5 dernières parutions. Donc, Schrader, c'est un essai de Jérôme Destay, qu'on a déjà publié sur les Oscarax, et sur 50 éclats de cinéma, qui 50 portraits de tournage qui se sont mal passés ou compliqués. Et c'est dans le style de ce que fait Jérôme, c'est très littéraire. Donc là, les Chambres noires de Paul Schrader, il revisite l'œuvre de Schrader par 9 chambres, qui sont des thèmes qui reviennent fréquemment dans l'œuvre de ce cinéaste, qui est donc le scénariste de Taxi Driver, mais aussi un grand cinéaste, ce qu'on découvre plus nettement depuis quelques films, mais ce qui pour moi apparaît des Affliction, qui est un film extrêmement percutant, extrêmement, enfin moi qui me touche énormément. Donc on a eu un essai sur Friedkin, effectivement, un ouvrage sur Busby Berkeley, qui est entre littérature et essai, et Poétique de Tom Cruise d'Olivier Maillard, une lecture très fine de l'œuvre de Tom Cruise, perçue en tant que auteur, producteur, acteur, un peu dans la lignée des écrits de Luc Moulet. Je crois que c'est... J'en oublie. Et La première femme de Georges Cukor, qui a un premier livre d'Alexandre Pietich, qui est sur Constance Bennett, une actrice du pré-code, assez oubliée, plus connue quand on se souvient que c'est la fille d'un grand acteur de théâtre new-yorkais, Richard Bennett, et la sœur de John Bennett, héroïne de Fritz Lang et productrice de certains des Lang aux États-Unis. Ou donc dans cet essai, ben, puis Alexandre revisite les trois films en particulier que Cukor et Bennett ont fait ensemble, et il la désigne comme la première héroïne cukorienne avant Catherine Hepburn, dont il fait un portrait aussi dans l'ouvrage.
Et quand tu as créé les éditions Marès, du coup, est-ce que tu avais des influences ? Est-ce qu'il y avait un éditeur ?
Il y en a plusieurs. Il y a les éditions Alia qui s'est piqué l'idée des quatrièmes de couverture un peu énigmatique et très rapide. Il y a Pover et Losfeld qui sont et Claude Chou qui étaient de grands éditeurs. Alors, Pover, c'est un peu mon dieu, mais Losfeld aussi et Claude Chou qui est semblable à ces deux éditeurs. J'ai fait mes armes chez lui vers 2003-2004. C'était le premier éditeur à publier Sade en œuvre complète sous le manteau à l'époque, parce que c'était interdit. Chez lui, j'ai vraiment appris le goût du livre, et c'est